Sur le Pont des Arts est au festival Abidjan Capitale du Rire. Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. C'est bien connu, quand rien ne va plus, rien de tel qu'un bon éclat de rire pour prendre du recul et repartir du bon pied. Et ce n'est peut-être pas un hasard si en 2025, l'humour et le stand-up ont la cote comme jamais. Sur les réseaux sociaux, les nouveaux talents se bousculent, les comédie clubs fleurissent partout, en Afrique, en Europe et ailleurs. Et les spectacles d'humour se jouent à guichets fermés. Abidjan en est sans doute le plus bel exemple. Le gratin de l'humour africain s'y est produit ce week-end pour la 10e édition du festival Capitale du Rire, avec en maître de cérémonie notre président fondateur, Maman, en guest star Docta Kevin, le dernier lauréat du prix RFI Talent du Rire. Occasion rêvée pour nous d'aller à la rencontre de quelques-uns de ces humoristes qui embarquent le public des salles ou enflamment les réseaux. Comment en sont-ils arrivés là? Comment travaillent-ils? Où trouvent-ils l'inspiration? Ils sont quatre avec nous sur le Pont des Arts. Bienvenue à Abidjan. Et c'est une nouvelle émission enregistrée au Palais de la Culture de Trècheville. Je vous présente nos quatre invités du jour. Honneur aux Ivoiriens d'abord, Boukari et Agalawal, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Il faut faire la différence quand vous présentez l'ambassadeur. Parce que vous avez tendance à le confondre au comique.
L'ambassadeur Agalawal n'est pas de la même famille que Boukari.
Je pense que eux, c'est les humoristes. Et là, c'est une personnalité qui est là. C'est un ambassadeur.
Donc, qui doit être reçu avec les égards dus à son rang.
Bien sûr, bien
absolument.
Sûr,
bien. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale est aussi représentée sur le plateau. Bonjour à vous, Ndolo Lamour.
Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour moi, avec mes 5 étoiles à la canne, de venir discuter avec mes...
5, vous êtes sûr?
Ah, bah oui, hein. 6, celle de
la
celle...
prochaine.
Non, 6, celle que les Ivoiriens ont pris dernièrement et que par hospitalité, par humilité, nous avons décidé de leur céder.
Alors, humoriste, ambassadeur, vous vous situez où?
Moi, je suis encore humoriste, bientôt ambassadeur.
Bientôt ambassadeur, ouais. ça ne saurait tarder. Ouais. En tout cas, vous avez grandi au Cameroun, donc entre Yaoundé et Douala. Et enfin, Herman Amissi de RDC, bonjour.
Bonjour Nathalie, ça va, j'espère?
Ben oui, ça va très bien. Bienvenue à vous.
Merci.
Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas en Afrique, on va rappeler ceci. On vous a découvert lors de la dernière CAN, justement, avec...
Betaye Toro Toro, Chancel Bemba, Betaye Toro Toro, Cédric Bakambu, Betaye Toro Toro, Théo Bongonda, Betaye
Côte d'Ivoire, on arrive.
On arrive.
Côte d'Ivoire, la RDC arrive. La CAN, ça, la RDC, c'est une panne. Donc, on sera absent au pays pendant un mois. Les Brazzavillois, restez, surveillez le fleuve.
Voilà, surveillez le fleuve. Une adresse à vos voisins de Brazzaville, alors que la RDC allait disputer la Coupe d'Afrique des Nations et que la République du Congo, elle, restait à la maison. Des millions de vues, c'est ça, Herman?
Évidemment, des millions de vues. C'était très important pour nous de faire participer ces pays qui n'étaient pas qualifiés à la CAN. C'est disant que la CAN est une fête 100% africaine. Donc, c'était très important pour nous. Donc.
Et ça n'a même pas vexé les voisins de Brazzaville?
Non, ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris. On leur a demandé rien de grave. On allait jouer la CAN. On allait représenter les pays qui sont centrés en Afrique, les pays qui sont en Afrique centrale. Donc, pendant que nous serons en train de jouer la CAN, on vous demande juste une seule chose. Surveillez le fleuve.
Voilà, miracle de l'humour, ça ne les a pas fâchés. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir tous les quatre. On va parler de vous, on va aussi parler de ces jeunes qui voudraient faire comme vous et qui se lancent sur les réseaux sociaux sans toujours gagner leur vie.
RFI sur le Pont des Arts.
Boukari, vous vous dites...
Ah. Ouais, nous, vous dites quoi?
Ouais, vous dites l'humour, je ne l'ai pas voulu.
Ouais, c'est venu à moi.
C'est lui qui m'a voulu.
Ouais, c'est inné.
Ah ouais? C'était un don depuis l'enfance, depuis l'école.
Depuis
racontez-nous ça.
Voilà, il faut dire qu'à l'école primaire, voilà. Comme j'ai dit là, mon père, il est un bon comédien. Et ma mère, d'ailleurs, qui est artiste chanteuse, griotte même du village. Et il faut dire que les gens payaient à l'époque. Et même encore, elle a participé aussi à une émission de télé. Voilà, où elle était enceinte de moi. elle a dansé, fait la danse et la musique aussi.
Donc il y avait une tradition du spectacle dans la famille.
Oui. Oui, c'est inné quand même. C'est
et donc
inné.
Ils vous ont encouragé, c'est ça. Ils vous ont pas empêché
forcément parce
d'aller
que l'élève c'était pas de me voir être comédien. Voilà. Ils ont payé les études, donc c'est pas ça qui va venir.
Tu les as trahis.
Voilà, je les ai trahis. Voilà, pour eux, j'allais être un bon docteur. Mais quand même, voilà, le destin m'a toujours suivi et docteur humour, c'est même sur les deux soins, nourrir et thérapeutique. Donc j'ai fini par être ce qu'ils ont demandé que je devais être. Donc aujourd'hui là, ça va. Voilà. Comme j'ai dit, ça m'a pas, je n'ai pas choisi ça, ça m'a choisi.
Et c'est... la particularité de vos sketchs, Boukari, c'est que vous y adoptez, vous en jouez même, hein, l'accent du Burkina
c'est
Faso.
C'est ce que j'ai fait en ce moment.
Ben oui, absolument, parce que vous avez grandi avec les voisins burkinabés.
Oui. Pendant les vacances, comme j'ai dit, de la petite Eddie, dans les travaux de Saint-Pierre, il faut dire qu'il y avait beaucoup de nos frères qui y travaillaient. Donc, ouais. C'était mes amis. Donc, ils m'apprenaient aussi à comment cultiver, comment faire les choses. Les saisons des récoltes, les saisons des semences, tout ça, avec eux, j'ai appris beaucoup de choses, ouais. Et même le parler.
Et en tout cas, avec ou sans l'accent burkinabé, mmh. Vous aimez bien Boukari, rire des succès et des échecs avec les filles. On écoute.
Mais là, elle a demandé, t'es un série ? Elle dit oui. Il dit, ah. Il est avec toi, il est à Abidjan ici ou bien à l'intérieur du pays ? Elle dit non, il est à Abidjan ici. Il dit, ah. Vous habitez ensemble ? Elle dit, oui, on habite ensemble. Il dit, ah. Mais vous habitez ensemble, mais tu n'as pas m'essayé. Si tu m'as essayé, la peut-être que tu vas le laisser lui. Elle dit, d'accord, on sait jamais. Je dis, ah, t'as vu, non? C'est après qu'on sait jamais là qu'elle te demande tout ça là. Mais maintenant, bon, comme tu vous habites ensemble là, est-ce qu'on peut se voir hors du quartier? Maintenant, elle lui demande après, ton chéri là, est-ce qu'il te suit beaucoup? Elle dit, partout où je vais, il va. Je dis, ah. Mais c'est partout. Donc, quand je commence à lui demander comme ça, là, je suis assis dans le bar, là, puis arrivé un moment, je sens que quelque chose me sert. Je me dis, non, ça c'est l'amour qui me sert comme ça. Non, c'est l'amour qui me sert. Donc, elle est là jusqu'à. Je lui ai dit, bon, enfin, si toi tu dis que ton mari, là, il te suit partout, pourquoi il n'est pas avec toi dans le bar, là? Elle dit, si, il est là. Hein? Elle dit, celui qui est assis au côté de toi, nous là, qui est assis au milieu de nous. Quand elle a dit cela, et puis tu vois son mari là, en flamme, vous le bras comme ça, dans ce qui me sert là, c'est pas l'amour, c'est lui qui me sert.
Voilà, c'est mon travail là qui est là.
C'était donc pas l'amour, c'était un compagnon jaloux. Vous aimez, Boukari, exploiter dans vos sketchs ce genre de situation gênante?
Oui, beaucoup, parce que c'est le vécu c'est notre quotidien. Voilà, c'est notre quotidien et ce qui fait que beaucoup de personnes se les trouvent dedans. C'est-à-dire, le même vécu ici en Côte d'Ivoire, c'est à Brazzaville, ouais. Au Cameroun, tout le monde a vécu ça quand même quelque part dans, ouais, une famille. Ouais. Donc, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, là, Inch'Allah, ça va.
Moi, je voudrais savoir, ambassadeur Agalawal, oui. Ndolo Lamour, Herman Amissi, si, oui, l'humour est venu vous chercher vous aussi, ou si c'est vous qui l'avez cherché longtemps?
Non, lui, il est parti, c'est parti, c'est l'ambassadeur. Tout allait nous aligner, tout allait nous aligner. Ne dis pas autre chose.
Attendez d'abord, là, je me défends, là. Bon.
La parole est à l'ambassadeur.
Oui, c'est la parole.
Quelle bonne parole, même.
Non, il faut préciser les choses, parce que d'abord, c'est ambassadeur à Galawal, à l'état civil à Galawal, et puis à l'état-major, ambassadeur. Si vous voyez, on fait la part des choses. Oh. Quand on met les deux ensemble, ça donne ce que ça donne. Alors nous, on est rentré un peu tard dans l'humour, après les études et autres, tout ça. Ben, ouais. Bon, comme on était là, on chômait. Ouais. On s'est dit, bon, comme les Boukari, là, avec ce qu'ils font, on dirait que ça paye un peu. Donc, on a décidé d'essayer. Et puis, bon, voilà, on est rentré dedans. Et finalement, ben, on a trouvé notre place. Donc, on a pris le temps avant de rentrer dans l'humour. Nous, ouais, on n'est pas.
C'était
rentré,
pas forcément une
on n'est pas rentré dans le ventre de nos parents comme Boukari.
C'était, voilà, pas forcément une vocation depuis l'enfance. Mais,
comment?
Mais c'était pas forcément une vocation depuis l'enfance, mais ça a marché.
Oui, ça a marché. Ouais. Ça a marché. On a eu la chance, on a tenté et puis ça va.
Je dirais presque la même chose que l'ambassadeur à Galawal. Nous, c'est le chômage, en fait. Le chômage qui nous a fait découvrir les talents cachés. C'est-à-dire, dès le moment où tu n'arrives pas à te trouver le boulot, et tu commences à découvrir petit à petit les talents cachés en toi. Ouais. C'est comme ça que tu découvres que quand je parle, les gens rient. Ok, c'est que j'ai pas à faire un métier.
Il est ton galère.
Il y a du chômage.
C'est aussi simple que ça.
Il y a qu'on la pauvre.
Dolo Lamour, on vous a pas entendu.
Oui, bah après, si moi je dis que j'ai commencé l'humour tard, on va me demander tu as quel âge. Non, je touche ma tête de temps en temps pour repenser au passé.
Les auditeurs n'ont pas l'image, mais effectivement.
Ah oui, bien sûr. J'ai,
c'est bon.
J'ai une rupture de cheveux très avancée vers le centre de ma tête. Bon, vous pouvez imaginer.
Une calvitie, on peut dire.
Ah, ok, d'accord.
C'est plus c'est que ça, même. Hein,
ah,
je crois.
Ok, d'accord.
Mais oui, oui, oui.
Donc, moi, l'humour, mais c'est
sauvage.
Allez, je sais pas. En fait, je sais. Je sais que j'ai une calvitie. Il y a des gens qui me rappellent ça tout le temps. Quand tu as la calvitie, mais je sais. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et bon, moi, l'humour, c'est depuis. Après, je ne suis pas très vieux aussi. Donc, c'est même un honneur pour moi d'être au milieu des grands frères comme Bokari, l'ambassadeur Herman et tout ça.
Et il y a des grands frères du Cameroun que vous avez interprétés aussi, Jean-Michel Cancan.
Exactement, pendant beaucoup d'années.
Grand acteur, humoriste de la génération d'avant.
Quand je cherchais ma marque, vu que c'était le plus gros influenceur en son époque en matière d'humour en Afrique. Donc, j'ai commencé par ça avant de rentrer dans le stand-up réellement.
Ouais. Alors, vous aussi, vous aimez bien les histoires de couple, hein, les histoires de tous les jours.
Ouais.
Mais dans l'extrait qu'on va entendre, il y a aussi autre chose. On écoute.
Et mon frère, je ne sais pas si tu ressens aussi le même plaisir quand tu te rends compte que le nouveau gars de ton ex est plus vilain que toi. Je vous assure, j'ai vu son nouveau gars dernièrement. Son visage était comme les élections présidentielles au Cameroun. C'était truqué. J'assure.
Voilà, donc c'est un mélange d'humour du quotidien, d'humour politique. Ils rient facilement d'eux-mêmes, les Camerounais, de Dolo Lamour.
Oui, avec beaucoup de manières.
C'est-à-dire
avec beaucoup de manières.
Et beaucoup de réserves, quoi.
Oui. C'est pour ça que si
c'est
vous avez.
En fait.
si vous avez remarqué, ce texte-ci, je l'ai joué ici au Parlement, je dirais en Côte d'Ivoire, mais cette blague n'est pas écrite, n'est pas jouée de la même manière au Cameroun. Donc vous pouvez comprendre.
Mais elle est jouée quand même ou pas?
Au Cameroun, non.
Ça dépend de où je dois jouer.
ça dépend de où je dois jouer. Donc là, si on me demandait des comptes, j'allais dire non, mais à la base, je n'avais pas prévu ça, on m'a imposé cette blague et tout ça, un truc comme ça. Mais sinon, au Cameroun, je sais quoi dire à la place de ça. Donc, c'est ça. Sinon, j'aime bien parler de politique.
Ouais, il y a des blancs dans le scénario et dans l'écriture, c'est ça que vous remplissez en fonction du pays où vous êtes.
Exactement.
Vous aimez aussi les thèmes de société, comme ici, sur votre compte TikTok. On écoute.
On te dit qu'en 2025, il faut entreprendre. Ça a l'air facile. Oh, on a que tout ce que tu veux faire. Quelqu'un a déjà fait ça et en mieux. Tu veux même te lancer dans la vente des jus naturels. Tu tombes sur un gars qui lui presse les fruits directement dans les bouches des clients. Tu veux te lancer dans la vente des perruques et des habits. Au moins 2000 filles qui font ça sur WhatsApp et Facebook. Tu veux lancer même dans la vente des piments. Elles sont nombreuses. Il n'y a même plus de place. Toi, mec, ton comptoir par où? Et finalement, il fait dans quoi? Il fait dans quoi, Seigneur?
Fait dans quoi?
Voilà, ça fait rire vos voisins aussi. Vous riez de quelque chose qui n'est pas franchement drôle, hein, la difficulté à trouver sa place dans la société.
Ouais,
c'est ce que nous racontait Herman tout à l'heure.
C'est très compliqué au Cameroun, vu que.
Non, vous trois, votre vie a été compliquée, quoi.
C'est le pays qui est compliqué. Du coup, quand tu vis dans le pays, forcément,
c'est compliqué.
Même ta vie devient compliquée. Parce qu'après.
Là, ton histoire d'ambassadeur.
Parce qu'au Cameroun aussi, aujourd'hui, presque tous les jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
Ouais, tout le monde veut vendre quelque chose, tout le monde veut faire un truc pour avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, au Cameroun, toutes les jeunes filles vendent en ligne des perruques, des sacs à main et tout ça. Avec ça, elles peuvent avoir sur un sac peut-être un 2000 francs, 5000 francs. Ça permet de payer, de gérer une facture, de manger. Et du coup, tout le monde est dans ça. Toi, maintenant, qui arrive, il va bien falloir que tu innoves, que tu cherches autre chose, en fait. Parce que si tu jettes dans le tas, il y a beaucoup de concurrence.
Si tu te contentes de faire comme tout le monde, tu ne vas pas y arriver.
Oui, exactement.
Ouais. Ambassadeur,
oui.
Votre créneau humoristique à vous, c'est quoi? C'est les thèmes de société?
Ouais,
c'est la politique avec le titre, ronflant que vous avez? Vous parlez politique?
Alors, ben, moi, je suis très à l'aise pour toucher les sujets politiques parce que quand même, je suis un ambassadeur. Donc, ce sont mes collègues. On se voit tout le temps, on cause ensemble, on dit des choses ensemble. Et moi, j'aime beaucoup toucher des sujets quand même osés en thème politique. Parce que moi, je fais beaucoup attention à la société et je pense que j'avais fait un sketch quand même qui a fait vraiment beaucoup de tabac.
Racontez-nous lequel, de quel il s'agit ici.
Dans la vie, moi, je respecte deux personnes qui ont les mêmes
attributs,
les mêmes avantages, les mêmes privilèges. Et puis, on ne fait pas attention. Le président et le prisonnier, pratiquement, ils sont même chose. Parce que vous voyez, quand un président passe, c'est le même dispositif que quand un prisonnier est en train d'être convoyé. Vous voyez, il y a le gyrophare, il y a les motards, il y a la sécurité. Mais quand le président passe, c'est la même chose. Hein. Et puis, pour voir un président, il faut prendre un rendez-vous. Quand tu vas voir le prisonnier, ben, tu prends aussi un rendez-vous pour
c'est
y
le
aller.
C'est parloir, oui.
Donc, chacun vraiment se défend à sa façon. Et même au niveau orthographique, vous voyez, président, ça commence par la lettre P. Prisonnier aussi, ça commence par la lettre P.
Ça fait beaucoup de concordance.
Vous voyez un peu. Et puis souvent, c'est les présidents qui deviennent prisonniers.
Ouais.
Souvent aussi, c'est les prisonniers qui deviennent présidents.
Ouais.
Bon, enfin, je ne vais pas continuer
et
l'histoire.
Et ça ici, ça passe.
On est en Côte d'Ivoire. Non, ça passe parce que c'est de l'adaptation.
Mmh.
Et moi, j'aime écrire en fonction des contextes. Et je suis beaucoup inspiré souvent par les contextes.
Par les contextes. Vous avez aussi écrit, j'allais dire, des choses plus légères, comme ceci.
Éric Pinset. Elle dit oui. Éric, tu vois, quand je te vois comme ça, là, les battements de mon cœur accélèrent rapidement. On dirait les cas de corona au journal de 20 heures. Le gouvernement dit de respecter la distanciation, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends que je suis mort, je ne suis pas mort d'autre chose, mais je suis mort de toi quand j'ai été testé positif au charme de ta beauté.
Une déclaration d'amour au temps du Covid signée de l'ambassadeur à Galawal.
Oui, comme
c'est
je
magnifique.
Vous l'ai dit, il fallait que je m'adapte parce que vous parliez de résilience, vous parliez de chacun qui met les moyens pour pouvoir bouter hors du monde les coronas. Donc nous aussi, à notre façon en tant qu'humoristes, on utilise notre arme qu'on utilise la mieux. Donc c'est pour dire que bon, c'est
vous faites
contextes.
Feu de tout bois, toutes les situations
tout.
Vous inspirent.
Moi, je suis toujours dans
ouais.
mon élément.
Vous écoutez les infos du coup, beaucoup.
Oui, surtout. RFI.
Ah, c'est ça, c'est une très bonne chose. Herman Amissi, on vous a entendu tout à l'heure dans Surveiller le fleuve, j'allais dire que c'est un peu votre tube, votre hit, mais c'est pas le seul registre sur lequel vous faites de l'humour. Ça vous arrive aussi de regarder les vôtres avec un peu de recul et de moquer leur division, on écoute.
L'Afrique est le seul continent où tu trouves des églises au même endroit, au même moment. En Europe, par exemple, c'est une église dans chaque quartier. Et quand tu entends le nom, tu sens la paix. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Paroisse Saint-François le Grand. C'est-à-dire, tu sens même la grandeur de l'église. Reviens en Afrique. Sur une petite avenue comme ça, tu trouves 22 églises. Côte à côte. Si on ne t'explique pas, tu pourrais penser qu'il y a parking des églises. Et rien que par leur nom, tu croirais à un règlement des comptes. C'est-à-dire, tu lis ici, Église, Dieu est grand. Juste en face, Église, si ton Dieu est mort, essaye le mien.
22 églises sur une même avenue en RDC, vraiment, Herman?
Aujourd'hui, en fait, les églises sont devenues un autre moyen pour certaines personnes. Pour gagner de l'argent, en fait. C'est une sorte d'investissement pour les entrepreneurs qui n'ont pas su s'adapter sur d'autres projets.
Mais voilà le créneau sur lequel il faut se lancer, Ndolo.
Ah ouais. Donc, on essaye du mieux qu'on peut, non seulement décrier, mais aussi passer le message, parce que nous sommes humoristes, bien sûr, s'il est de notre devoir d'éduquer, d'instruire et surtout de passer le message qu'il faut.
Sur le Pont des Arts et au Festival Abidjan, capitale du rire.
Je suis dans mon bail, j'évolue, hein. À 200 à fond dans le bolide, hein. Fuego musique, c'est solide, hein. Je parle pas aux enfants impolis. La go là-bas est jolie, hein. Sont grappés dans les torticolis, hein. On m'a dit, elle s'appelle Molly, hein. Molly, viens, on va faire des folies. Cocoti, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que le chocoti, c'est la vie. Cocoti, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que Baba Chetty, c'est
c'est la vie. Yeah.
J'arrive dans Digba caisson. Lick lick est sans pression. Quand on debout, t'es pas le ropé, faut détruiser attention. Bébé, donnez-moi, donnez-moi. Des coups seulement, seulement. Refais ça dans le noir, ou bien dans le bas, dans le bas. Attends, yeah, c'est moi, yeah, donne déjà des temps. J'entends, yeah, Kadja, tu m'as parlé des mouvements là. Hey, c'est chaud.
C'est chaud. Coco dit, je suis dans la vie. Le repère fait tout ce que le choco dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la vie. Le repère fait tout ce que Baba Tchè dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la vie. Le repère fait tout ce que le choco dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la vie. Le repère fait tout ce que Baba Tchè dit, c'est la vie. C'est la vie, petit, devant ton vieux, fais-toi plus petit. Repérons ses travail aussi, apparemment le boss n'est plus possible. Ah, champion, dans mon verre, mets des glaçons. Viens parler mal en face si t'es garçon. J'ai un gosse, si tiens force des maçons. Ces rappeurs sont mes enfants, mes passants. Coco dit, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que le choco dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que Baba Tchè dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que le choco dit, c'est la vie. Coco dit, je suis dans la ville. Le repère fait tout ce que Baba Tchè dit, c'est la vie.
Miedja avec ce titre. Coco dit, c'est dans la playlist RFI sur le Pont des Arts et à Abidjan avec Boukari, ambassadeur à Galawal, Herman Amissi et Ndolo Lamour. Alors le travail d'humoriste, c'est un travail un peu solitaire, hein, mais parfois c'est aussi un travail à plusieurs et vous en avez fait l'expérience au Festival Capital du Rire où vous avez participé dimanche soir à la battle riche contre pauvre. Racontez-nous comment ça se passe. Chacun travaille de son côté et puis répétition.
C'est un travail d'équipe, comme on dit.
Tu as travaillé en équipe avec qui?
Oh.
Ah non, parce que je ne peux pas autoriser que sur le plateau ici, tu viennes te...
C'est un travail... Là,
nous, et puis depuis quand un pauvre prend la parole devant les riches?
Laissez parler Boukari, voilà, ambassadeur.
Voilà. Ne disent pas qu'il est avec nous.
On dit ce que femme veut, Dieu veut. Voilà. Voilà, madame, merci beaucoup de me donner la parole.
Sans vous
vouloir
écoute.
Sans vouloir monopoliser la parole.
Idiot.
Il faut dire que c'est... C'est un travail d'équipe qu'on a fait, même s'il ne veut pas les reconnaître quand même. Sans les pauvres, il n'y a pas de riches.
Ndolo Lamour, vous étiez français. Parmi les riches ou parmi les pauvres?
Il est moins nanti.
Dans la bataille.
Mon collègue.
Voilà comme il a dit. Donc, je suis son collègue. C'était un vrai partage d'idées. Chacun est venu avec ses expériences. Et puis, on s'est retrouvés. Vu que moi, je suis camerounais, il y a des réalités qui sont typiquement camerounaises. Ouais. Il y en a qui sont de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des similitudes à chaque endroit.
Vous vous êtes retrouvés. Ah, Boukari n'est pas d'accord.
Comme ça, là, c'est des pauvres. Il faut le voir ton comportement.
En fait, c'est que j'étais riche avant. Et comme la vie m'a enseigné.
Donc, tu es un espion.
Non, je ne suis pas un espion, je suis un pauvre.
Tu as fait quoi chez nous?
Je suis un pauvre.
C'est un nouveau pauvre.
Ben ah, oui. D'accord.
Déjà, un riche ne peut pas accepter être espion.
Il n'y a pas que des nouveaux riches.
Il a réussi, ça.
Il n'y a pas que les nouveaux riches, Boukari. Il y a aussi les nouveaux pauvres.
C'est une causerie entre les pauvres. Ben, nous, on n'a pas grand-chose à dire.
C'est vrai.
On n'a jamais été pauvre, donc on ne sait pas comment ça se passe quand on est pauvre.
On n'a même pas le temps de parler. On les entend bavarder. L'argent n'aime pas le bruit.
Voilà, tu comprends.
Comment vous êtes devenu riche, ambassadeur à Galawal et Herman Amissi? Comment ça s'est fait, ça?
Mais ils ont détourné des fonds, non? Forcément.
L'expérience.
C'est le moment d'avouer, là.
À vous.
Écoutez, on a fait la politique, on a investi dans les affaires, dans les business, n'est-ce pas, Herman?
Piller quelques pauvres.
On ne pille pas, on utilise le cerveau, l'intelligence. Non,
non. C'est ça.
En tout cas, hier soir, sur la scène du Palais de la Culture, en pleine battle riche-pauvre, on a vu apparaître Docta Kevin, lauréat 2024 du prix RFI Talent du Rire. Il est camerounais comme vous, Ndolo Lamour, vous connaissez?
Ah oui, bien sûr, on se connaît, Dr. Kevin.
Dr. Kevin, en tout cas, avant de se consacrer pleinement à l'humour, il a commencé par passer un diplôme en construction mécanique. C'est pas le seul à avoir fait totalement autre chose avant l'humour. Il va nous dire dans un instant ce que représente pour lui ce prix. Mais d'abord, un tour sur les réseaux sociaux avec l'une de ses courtes vidéos.
Bon, j'étais en train de sortir et j'ai dit que c'était important que je donne des conseils à un jeune marié. Voilà, toi qui viens de te marier là, conseil très important. Si tu pars quelque part... Et tu manges, tu rentres, ta femme te demande que la nourriture là c'était bon. Tu coupes avec ta bouche, tu commences à dire que bêtement, oh c'était très bon, même si c'était bon n'importe comment. Dis-lui que bon, c'était là, c'était pas mal. Parce que tu dis que c'était très bon, tu as cherché les problèmes. Tu as compris, non?
Je comprends, mais c'est merde.
Non, c'est pas ce que tu parlais.
Non.
J'étais souvent de conseiller quelqu'un.
Et alors, c'est madame qui a donné la réplique ou pas?
Oui, c'est elle.
Donc, c'est une vraie scène. C'est une vraie scène de la vie de Dr. Kevin. Bonjour, Dr. Kevin.
Merci, bonjour.
On se retrouve ici à Abidjan. Entretien enregistré, hein, je le précise pour nos auditeurs. Oui. À quelques heures de la remise du prix RFI Talent du Rire, vous êtes venu du Cameroun pour le recevoir.
Oui.
Émotion.
Oui. C'est très fort ce que je vis et je continue toujours d'avoir l'impression que j'étais dans un rêve, quoi. Et c'est beau, c'est merveilleux.
Un prix obtenu à l'unanimité du jury,
oui.
C'est une consécration pour vous? C'est une fierté, j'imagine?
Oui, je dirais que c'est un encouragement déjà pour ce qui a été fait jusqu'ici, parce que si je rentre en arrière, ça fait 13 ans de travail en bac, en off, sans forcément être extrêmement médiatisé. Pour moi, je le prends comme étant un encouragement pour ce qui a été fait jusqu'ici et un point de départ pour ce qui est en train d'arriver.
Le premier One Man Show, donc oui. Il y a 13 ans, 2012, ça s'appelait My Life.
Oui.
J'imagine donc que c'était le récit de votre vie jusque-là.
Oui, généralement c'est ça l'humoriste et... Comme quelqu'un l'a dit dans ses sketchs, on fait croire aux gens généralement qu'on ment, pourtant on dit la vérité. On raconte nos vies, c'est juste qu'on a des façons de les raconter qui font certainement rire, mais généralement à 80%, ce que nous racontons de nos vies dans nos sketchs sont des choses vraies et vécues. Donc My Life était une façon de retracer ma vie et de partager avec le public.
Mais alors c'était quoi, Dr. Kevin, votre vie? Parce que moi j'ai recherché des extraits de My Life en ligne et j'en ai pas retrouvé. Alors j'étais curieuse de retrouver ces documents.
Oui, je veux dire entre guillemets malheureusement, parce qu'à ce moment, ce spectacle avait été filmé, mais on a perdu les images. On a perdu les enregistrements, c'était dommage. Mais My Life, c'était vraiment le tout premier one-man show que j'écris, c'était... 1h30 de show dans une salle de 250 personnes environ. Un public qui a adhéré et qui était très très content d'être là. C'était le 15 décembre 2012.
Et donc l'idée c'était quoi? C'était de faire rire de vos galères ou simplement de vous raconter?
Oui, faire rire des galères, mais aussi édifier ceux qui sont là en leur racontant ce qu'on vit, tout en leur donnant des leçons de vie, en leur disant peu importe les conditions dans lesquelles on grandit, on peut décider d'être différent demain, même si on a grandi dans des contextes difficiles. Par exemple, quand je dis dans mon quartier, lorsque quelqu'un veut laver ses tennis, il sèche d'abord un pied et puis il récupère, il sèche l'autre. C'est pour décrire un quartier dans lequel il y a le vol. Mais dire qu'on peut vivre dans ce quartier, mais après être différent dans sa vie et décider de passer à autre chose.
Après ce premier one-man show, vous avez abandonné les études, c'est ça? Vous êtes consacré pleinement à l'humour?
Oui, parce que je faisais des études en construction mécanique. J'avais l'impression que ça ne me réussissait pas beaucoup. Pourtant, en ce moment, je faisais déjà beaucoup de scènes, j'avais beaucoup d'invitations et je me suis dit, pourquoi gaspiller de l'énergie? Pourquoi ne pas canaliser cette énergie dans ce
dans
qui
quelque chose
me,
de
passionne,
positif,
déjà,
ouais.
me passionne déjà et aussi quelque chose de positif, quelque chose qui est déjà en train de montrer, autant mieux canaliser cette énergie dans ce domaine-là.
Mais ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez des scènes très régulièrement, que vous entretenez une communauté de fans sur les réseaux sociaux? Il y a aussi ce Gospel Comedy Club qui est un peu la troupe des amis humoristes avec lesquels vous vous produisez.
Il y a beaucoup d'événements, il y a des concerts, il y a des mariages, il y a des plateformes sur lesquelles j'étais déjà beaucoup sollicité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que je canalise cette énergie-là. Et l'idée du Gospel Comedy Club vient du fait que je ne voulais pas être seul dans ce registre gospel et je voudrais trouver d'autres personnes avec qui on peut former un club. Donc, dans nos spectacles, il y a beaucoup de jeunes qui se découvrent pour la toute première fois sur scène. On a parfois tendance à ne pas croire que c'est son premier sketch. parce qu'on a travaillé et on s'est dit qu'il faut offrir cette plateforme à la jeunesse, à ceux qui viennent derrière nous.
Docteur Kevin, c'est quoi le registre du Gospel Comedy Club ?
Le registre du Gospel Comedy Club, c'est de communiquer des valeurs positives, des valeurs divines surtout. Quand on parle de gospel, on parle des valeurs divines, on parle des valeurs spirituelles. On décide de faire de l'humour de façon différente, éviter la vulgarité, éviter tout ce qui est obscène, tout ce qui est malsain, tout ce qui est injure. Mais en disant aux gens, en leur donnant un message d'espoir.
Mmh. Oui. Éviter aussi les sujets politiques. On parlait tout à l'heure avec Ndolo Lamour de certaines blagues qui ont un peu de mal à passer au Cameroun. Bon. Vous, c'est un registre que vous vous interdisez ?
Pas forcément, parce que la capacité de l'humoriste, c'est aussi de dire sans dire. C'est aussi de décrire ce qui se passe dans son pays sans le dire. Par exemple, lorsque je suis sur scène et que je dis il faut le changement et que mon téléphone sonne, on entend Dr. Kevin, tu as un appel et que je réponde et que je dis je tiens à ma carrière. On peut comprendre ce qui s'est passé derrière le coup de fil, mais aussi en même temps, je n'ai rien dit. C'est aussi ça la subtilité de l'humour.
La finesse de l'humour, évidemment. Il y a des sujets touchy pour vous, des sujets auxquels il ne faut pas toucher ?
Pas vraiment. Tout dépend de la façon de l'aborder. On peut parler sexe sans heurter, en utilisant d'autres mots, d'autres approches, sans que ça ne heurte personne, sans que ça ne soit vulgaire. Donc on peut toucher à tous les sujets, mais tout dépend de comment, avec quel angle est-ce qu'on l'attaque pour que ça ne choque pas.
Avec le Gospel Comedy Club, vous tournez déjà au Cameroun. Hein.
Oui.
Qu'est-ce que vous espérez de ce prix ? Est-ce que vous pensez que ça peut booster ce Comedy Club et puis vous, votre carrière en solo ?
Oui, je pense que ça peut booster. Déjà dès maintenant, c'est venu comme un message d'espoir pour ceux qui sont là dans cette écurie. Pour ceux qui, jusqu'ici, ne prenaient pas encore la chose au sérieux, ils se sont dit, mais tiens, ah bon, voilà où ça peut nous emmener. Donc c'est venu comme un boost pour ces jeunes.
Et l'idée, c'est de vous produire aussi ailleurs, en Afrique ?
Oui, on est en train de travailler à exporter le projet. On espère qu'on aura certaines possibilités de produire des spectacles. Pourquoi pas de Gospel Comedy Club ici en Côte d'Ivoire, au Congo et un peu de partout en Afrique. Pourquoi pas à Paris aussi ? C'est possible.
On vous le souhaite, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et si vous passez par Paris, ne manquez pas de venir saluer les équipes d'RFI. Vous êtes déjà très célèbres là-bas, à Ichy-les-Moulineaux.
Merci beaucoup.
Merci Dr. Kevin.
Merci. Infiniment.
À très bientôt.
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.
nouvel extrait de la playlist RFI Ivoirien de Bordeaux, Lenkoufa, avec ce titre, Djeneba, Djaba. On parlait tout à l'heure des comedy clubs, Ndolo Lamour. On les a vus se multiplier ces dernières années. Est-ce qu'ils marchent tous? D'ailleurs, ça s'adresse même à vous, Boukari, ambassadeur à Galawal, Herman. Ça marche tous ces comedy clubs ou il y en a qui vivotent?
Oui, ça marche bien parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la population est fatiguée, beaucoup stressée avec les rendements qu'il faut dans les différents bureaux, dans les différentes administrations. Donc, les gens sont beaucoup stressés. Quand ils finissent, c'est-à-dire tu pars à 8 heures, ton temps ne t'appartient plus. Donc, s'il y a des occasions qui s'offrent à toi comme ça pour te dire que tu vas partir assister et puis détrester, un peu te détendre. Ouais. Voilà, ils ne se prient pas des fois. Ils viennent tous.
Ils ont besoin de décompresser, quoi.
Beaucoup, voilà, c'est le thème de la musique.
Décompresser.
Très belle question.
Il
voilà.
ne faudrait pas oublier qu'on est en train de vivre une époque où... l'humour ou encore les stand-up prend beaucoup plus de l'ampleur. Surtout, merci encore à nos grands qui nous ont précédés, qui ont frayé le chemin et aujourd'hui...
Non, c'est vous qui nous avez précédés. Ne me fais pas sauter. Voilà.
on essaie de suivre les pas et ceux qui viennent encore derrière nous essaient de suivre. Donc, tout de suite, chacun de nos jours essaie de créer son comedy club à côté pour donner un peu plus de visibilité à ceux qui sont dans l'ombre et essayer de donner d'offrir la bonne humeur.
Et donc, il y a la même effervescence sur la scène de l'humour en RDC qu'en Côte d'Ivoire ou au Cameroun?
Bien évidemment. Aujourd'hui, on sait
malgré la situation actuelle, ça continue d'attirer du monde.
C'est même le moyen qu'on utilise actuellement en fait, pour essayer de passer à autre chose. Donc.
Au Cameroun, ça commence à aller. Ça commence à aller parce que c'est compliqué parce que les Camerounais commencent juste à avoir la culture humoristique. Alors, c'était un peu compliqué de rassembler les gens dans les salles de spectacle. Il fallait un peu trop communiquer et parfois malgré une grosse communication, les salles n'étaient pas vraiment très pleines. Je parle des salles de comedy club. Aussi que au Cameroun, les gens tiennent beaucoup compte de l'aspect notoriété. Quand tu n'es pas encore très connu, forcément, tu n'as pas la visibilité qu'il faut. Du coup, forcément, tu n'auras pas beaucoup de monde. Donc là, on a adopté des stratégies de temps en temps. Donc, et à partir de 2020, depuis 2024, quand même, les choses commencent à aller. Il y a des gens qui viennent de temps en temps et on espère qu'avec le temps, voilà.
Il faut aussi signaler qu'au Cameroun, les gens rient difficilement.
Bah, je pense quand même. Herman, je ne t'écoute pas. Voilà, excuse-moi. Il faut dire que vous avez déjà monopolisé la parole depuis longtemps. Je me sens frustré déjà. Mais bon, c'est pas grave.
On n'a pas mis de sablier. On aurait peut-être dû, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sujet. Alors, il y a un sujet sur le temps de parole, là, hein,
ouais,
ambassadeur.
Ouais, non, on ne s'est pas entendu avant de venir. Alors, ce que moi, je pouvais dire sur l'évolution de l'humour, surtout en Côte d'Ivoire, vraiment, nous, on s'est sentis très très à l'aise parce que on a de plus en plus des gens qui s'intéressent à l'humour, surtout la nouvelle génération, qui aujourd'hui des gens qui sont capables de nous approcher, nous les humoristes, dire ah ben je vais non, n'écoutez pas le bruitage.
Boukari s'impatiente.
Oui, des gens qui ont envie, qui sont peut-être même dans d'autres métiers, qui sont pressés de vouloir faire de l'humour. Alors nous, on pense que c'est un combat qu'on a gagné.
Ouais.
Donc c'est sûrement ça qui motive et qui justifie peut-être la bonne santé de l'humour ivoirien.
Et on va parler dans un instant des web humoristes. Boukari, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, il a déjà tout dit. C'est ce qu'il a dit.
Donc faut plus rien dire.
C'est ça.
La fin, là, que
vous vouliez juste qu'on vous oublie pas.
Voilà. Donc, il faut dire que oui, c'est ce qu'il a dit. Il a déjà tout dit. Aujourd'hui, l'humour a fait son bonhomme de ses mains et ça s'est imposé dans toutes les classes sociaux. C'est couches sociaux ou bien que...
Il faut avancer.
Mon ami pauvre, là, c'est comment on dit
les classes sociales. Les couches sociales.
Quand c'est couches, là, c'est sociaux. Les classes, là, c'est social.
Ça dépend des jours.
Voilà. Aujourd'hui, partout, on en a besoin. Et même aujourd'hui, vous avez remarqué, nous aussi, on est sorti d'une crise grâce à l'humour parce qu'on a tourné au dérisoire tout ce qu'on vivait en Côte d'Ivoire.
En dérision.
Ah, je sais pas ce que tu as dit. Moi, j'ai dit quoi?
Tu as dit autre chose.
Ah, voilà, on a tourné ça en autre chose. Tout ce qu'on vivait en Côte d'Ivoire. Donc, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir sortir la tête. Et je pense que d'autres doivent le faire parce que c'est pas tout qu'il faut prendre au dernier degré. Sinon, la vie même.
Un peu de recul sur la situation. L'humour se porte bien en tout cas, et notamment sur le web. Il y a toute une nouvelle génération ici en Côte d'Ivoire de web humoristes qui a trouvé son public donc sur les réseaux sociaux, avec des vidéos courtes qui percutent, qui cumulent des milliers, voire des millions de vues, qui font de l'humour un véritable business en ligne. Alors, quels sont les codes de cet humour digital? Comment ces créateurs de contenu monétisent leur popularité ou tentent de le faire? Immersion dans cet univers avec le reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Patrice Ina, vous allez vous marier, Rora.
Aïe.
Mariez-vous.
Mais pourquoi vous criez mariez-vous? Ou bien le mariage est annulé?
Oui.
Vous n'allez plus vous marier?
Les yeux rivés sur son smartphone, Martial fait défiler son fil d'actualité à la recherche de vidéos humoristiques. Et ce commerçant a sa préférée.
Sarah Messin, vu qu'elle fait beaucoup rire en ligne. Ça me permet de me détendre, ça me met en joie. Et puis, je ris tout le temps, surtout quand elle fait ses collages avec les vidéos de Coach Amond. Voilà, c'est elle-même qui peut me tuer. Donc, j'aime bien les vidéos de Sarah.
Hello, bienvenue chez Sarah Messon.
C'est depuis chez elle que la jeune influenceuse réalise avec son téléphone des vidéos qui cumulent des milliers de vues sur les réseaux sociaux.
Je fais beaucoup d'humour. Je fais aussi ce qu'on appelle le collage. C'est-à-dire que je suis capable de prendre différentes vidéos et j'essaie de créer des conversations dans un style très drôle. En général, ça parle aussi de l'actualité parce que les gens aiment bien suivre l'actualité et tout, surtout ceux qui n'ont pas le temps. Quand ils se connectent et qu'ils viennent sur ma page, ils voient déjà tout ce qui s'est passé, quoi.
C'est qui ça?
Je t'aime bébé.
Yeah?
De tout mon cœur.
Tu chantes divinement bien.
Il y a quoi? Et puis celui-là chante aujourd'hui. Là.
C'est le 14 février.
Ah oui, la fête de l'amour.
Un concept qui plaît. Sarah Messon compte près de 8 millions d'abonnés et ce succès, elle le capitalise bien.
C'est très intéressant parce que pour eux, je suis, on va dire, leur petite copine. Quand on me voit dans la rue, c'est « Sarah, ça va? Ah, ça va ?» En fait, ça fait vraiment plaisir.
Justement, ce métier, vous êtes là-dedans depuis 2018. Est-ce que c'est rentable?
Oui, c'est rentable. On a des contrats et on a beaucoup d'opportunités. Mais moi, je vis plus de mes contrats. Je vends mon image en quelque sorte. Je suis ambassadrice de plusieurs marques.
De plus en plus de jeunes se lancent dans ce métier, espérant tirer profit de leur notoriété. Mami Cho, lui, incarne une mère africaine dans ses vidéos.
Zaza, va chez le boucher, tu vas m'acheter de viande. Voici la liste.
Il arrive à gagner jusqu'à 500 000 francs CFA par mois grâce à la monétisation. Mais il juge ce montant insuffisant au regard de son audience.
En France, un influenceur a 100 000, 200 000 abonnés. Juste avec 100 000 vues, il pouvait atteindre 1 000 euros, 2 000 euros. C'est-à-dire 1 million de francs CFA jusqu'à 2-3 millions de francs CFA. Moi, j'ai 4,5 millions d'abonnés, mais avec la monétisation, je me fais 500 000 par mois.
Les influenceurs ont donc difficilement accès à la monétisation, prévient Ali Mamlouk, plus connu sous le nom de Mami Cho.
Sur TikTok, on n'a pas accès à la monétisation en Côte d'Ivoire. Il faut créer son compte en France pour avoir accès au programme. Concernant YouTube, on n'a pas vraiment accès à la monétisation. Il faut mettre les informations de la France et tout. Donc on passe à travers des agences. Facebook aussi, pareil.
Ces agences basées pour la plupart en Europe prélèvent jusqu'à 25% des revenus des influenceurs. Un système contraignant, mais qui n'empêche pas l'essor des web humoristes bien décidés à transformer leur talent en business.
Oui, je te sers quoi?
1 kilo de bœuf, 1 kilo de mouton et 2 poulets.
Pourquoi tu cries?
Je crie parce que vous êtes bouché.
Voilà pour ce reportage d'Abdoulaziz Diallo. Ndolo Lamo, vous confirmez qu'il y a un souci avec la monétisation des vues sur les réseaux sociaux quand on travaille comme vous au Cameroun?
Oui, il y a un gros souci, hein. Il y a un gros souci avec la monétisation. Bon, à la base, moi, je suis déjà pas web,
machin,
un truc. J'ai dit qu'il y a un gros souci avec la monétisation.
Tu prends un peu de bois.
Non, j'ai dit à la base. Bon, à la base. OK. Ah, c'est peut-être mon ton. Bon, alors, je disais tantôt qu'à la base, moi, je ne suis pas un web comédien et tout ça. Je fais des vidéos de temps en temps.
Mais vous en faites quand même sur TikTok.
Pour entretenir la communauté et tout. Mais je m'intéresse à l'argent parce que je sais que ça paye. Je sais qu'il y a des gens qui sont là et ça paye. Je fais beaucoup de vues.
Ouais.
La monétisation, c'est compliqué. Passer par quelqu'un et tout ça que tu vas mettre sur ta page qui à un moment donné peut disparaître avec ta page et tout ça, mais tu le fais confiance et oui, ça existe.
Herman, c'est pareil?
Ben, c'est pareil parce que moi je suis quand même web comédien.
on est habitué au même problème. Aujourd'hui, avec la monétisation, sachant que le système n'est pas encore opérationnel à 100% dans tous les pays africains, du coup, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont à l'extérieur du pays, en France ou aux États-Unis. Et là, ça se joue sur la confiance parce qu'un bon matin, si vous ne vous entendez pas sur le pourcentage, tout de suite, tu perds ton compte.
Moi, j'ai une question pour vous quatre. Pourquoi il y a si peu de filles dans cette profession d'humoriste, dans ce secteur de l'humour? Ah, ambassadeur a une réponse, j'ai l'impression.
Ben, il faut dire que déjà,
elles ont du mal à se faire entendre,
déjà,
non?
Les filles étaient déjà complexées depuis le départ parce qu'elles croyaient que c'est fait que pour les garçons. Ouais. Et aussi, le public encourage plus les garçons qui sont dans le milieu de l'humour. Mais je crois que le moment est arrivé où les filles commencent à se réveiller, s'intéresser de plus en plus parce que nous-mêmes, on les incite à cela. Et on les invite, on les associe à nos spectacles. Donc aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire ici pas mal de filles qui font l'humour. Oui. Je peux citer des noms que peut-être vous connaissez.
Prisca.
Priscilla Dégameuse, il y a Prisca qui est avec nous.
Il
y a plusieurs comme ça qu'on peut citer.
Ça commence à venir aussi au Cameroun, en RDC. Bon, au Cameroun, il y a Charlotte Ntamak qu'on connaît bien ici.
Oui, ça.
Il y a d'autres noms de la scène de l'humour qui commencent à percer.
Oui, il y en a. C'est vrai qu'elles n'ont pas encore. Il y en a qui n'ont pas encore fait les scènes, peut-être internationales et tout, mais au Cameroun déjà. Il y a des programmes même. Il y a des promoteurs. Je veux parler de celui avec qui je bosse constamment, Valérie Ndongo, qui a tout un programme pour des humoristes femmes.
Ah, c'est pourquoi tu as ça, quoi, là?
Quelque part.
Et puis, c'est son idole.
Chez moi, au Cameroun, par exemple, il y a une humoriste qui a créé un comedy club, le Ladies Comedy Club. Il n'y a que les dames qui prestent là-bas. Après, il y a peut-être un garçon, un homme, qui vient faire la première partie. Parce que... ouais, bien sûr. Elles nous ont mis en première partie. Quand tu invites là-bas, c'est un honneur pour toi, l'homme, d'être là-bas, de faire la première partie, de disparaître et de laisser les filles faire le show. Donc, c'est ça. Et ça les encourage. Ça encourage plusieurs autres filles à s'intégrer. C'est vrai qu'elles abandonnent rapidement pour certaines, mais celles qui persévèrent, bah, ça va plutôt bien.
Herman, il faut de la discrimination positive pour faire arriver des femmes sur la scène de l'humour en RDC.
Il faudrait du courage. Il y en a quand même quelques-unes en RDC. Il y a les Nyota qui prestent à deux sur scène. Il y a Abel Boala. Elle est là un peu depuis un peu plus longtemps. Mais je pense que quelque part, il y avait, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on avait l'impression qu'il y avait c'est un complexe d'infériorité, en fait. Tout de suite, en fait, les femmes ne se voyaient pas prêtes à être sur scène. Mais avec le travail qui a été abattu en amont, tout comme en aval, par ceux qui nous ont précédés. Une fois de plus, je vais vous rejoindre aujourd'hui.
Si tu penses que c'est en le disant qu'on va laisser la scène, on va rester là. Parce que tant que Gohou est là,
vous êtes encore là et on vous le souhaite. Ce sont les fausses pistes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même donné une image très, 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 très positive à l'humour en Afrique. Et
faut juste patienter un peu.
Ça fait plaisir, en tout cas, de voir que les femmes soient intéressées maintenant, en fait, à monter sur scène.
Merci à tous les quatre d'être passés par le plateau d'RFI, ici, à Abidjan. Eh bien oui, c'est fini.
Moi, je n'ai rien dit.
Ambassadeur.
Je m'ai prêté à parler. J'ai pris toutes les mesures.
On a tout dit pour toi, t'inquiète, on a déjà dit.
Terminé, Boukari, c'est terminé.
Tu veux qu'on te laisse clôturer l'émission?
Je veux encore commencer.
Ambassadeur à Galawal, Boukari, Herman Amissi, Ndolo Lamour. Bonne continuation à vous.
Merci.
On vous souhaite plein de dates de spectacle, toujours du public et du succès. Merci au Palais de la Culture pour son accueil. Merci en particulier à Narcisse, Damien Roucoux, Pierre Plantier et moi-même. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission enregistrée à Abidjan. Il sera question du marché de l'art contemporain, un marché qui évolue dans cette ville où on ne compte plus les galeries d'art, les expositions. On sera notamment avec Thierry Dia, directeur général de la galerie, ou Camille Guizagne, Sandrine Marmissol qui dirige la galerie Eureka. On aura aussi le point de vue d'un artiste, Karl-Edouard Keïta, dont la première exposition personnelle Goumbé vient d'être inaugurée. C'était la semaine dernière à la galerie Fakouri. Le rendez-vous, vous le connaissez, 15h10, temps universel. On compte sur vous. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10.